Nous poursuivons notre semaine avec trois moments historiques. Deux de ces moments avec un même invité, Corrado Pirzio Biroli, qui est l'héritier du grand amiral von Tirapitz, l'un des acteurs majeurs de l'Allemagne de la Première Guerre mondiale. Vous allez voir quelques surprises historiques à la clé.
La première, le fin mot, Eddie Kackelbergs.
Paternoster August Gustav, 13e de ligne. Et deuxième chasseur à pied, simple soldat, se faisait le service de coureur outrancé.
1914, Auguste Gustave avait 18 ans. Pour lui commençaient 4 ans de souffrance et de misère. Une blessure, un éclat de scrapnel dans la jambe. Il n'en parle pas, pour lui, c'était une broutille. Et il a eu de la chance. 36 000 soldats et 10 000 civils belges y sont restés. Plus de 10 millions de morts au total pour celle que l'on croyait être la dernière.
Et vous avez été 4 ans et demi dans la misère, dans le danger, la soif, le froid, etc.
Et ça a été comme une délivrance alors.
Ah oui, une délivrance. Et voilà, j'arrive que c'était un homme heureux.
Rosalie, c'est ton histoire.
Rosalie, c'est ton histoire.
Que nous chantons à ta gloire.
Vers ta gloire.
Tout en vidant nos bidons.
Vivons-nous.
La première. Le fin mot. Eddie Kackelbergs.
Bonsoir, Corrado Pirzio Biroli.
Bonsoir.
Nous allons parler de votre aïeul, le grand amiral von Tirpitz, que l'on surnommait parfois ou que l'on comparait parfois à Colbert.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ressurgir cette grande figure, évidemment, dans votre famille, mais cette grande figure qu'on a un peu passée à la trappe?
Sur lui, il y a eu très peu de livres. Il y a eu ses mémoires, qui sont très difficiles à lire parce qu'il n'écrivait pas très bien. Et après, il y a deux autres livres, dont un assez bon, d'un Allemand, et un autre aussi, très bon, de 1964. Et ça, c'est trop tôt. Si on pense que beaucoup de découvertes historiques ont été faites par la suite, et notamment à l'ouverture des archives de Saint-Pétersbourg en 2010, qui ont changé un petit peu la donne et qui nous ont montré que l'histoire n'est pas celle qui ont écrit les gagnants, mais c'est une autre histoire.
Colbert allemand, ça veut dire, si on veut bien se souvenir, que Colbert a eu une relation de haut et de bas avec le roi. Ça veut dire que von Tirpitz lui-même a des rapports difficiles avec le pouvoir en Allemagne?
Je crois que la comparaison avec Colbert a été faite sur la base de comment il s'organisait, quelle était son approche au commerce, etc., mais ne correspond pas vraiment à la personnalité de Tirpitz. Je crois qu'en termes de relations avec l'empereur, c'était une relation d'amour-haine, parce que Tirpitz était supérieur à tout le monde. Il y a eu 4 chanceliers pendant que lui était ministre de la Marine, et c'est lui qui faisait la politique étrangère. Et donc les chanceliers n'étaient pas tellement contents parce que l'empereur écoutait beaucoup plus Tirpitz que d'autres. Ne fût-ce que parce que Tirpitz, à différence de l'empereur et de ses chanceliers, était très ouvert vis-à-vis du Parlement. Il savait très bien que s'il n'avait pas le Parlement de son côté, il ne pourrait rien faire. Et donc, le Kaiser s'est rendu compte que quand Tirpitz vendait une idée au Parlement, il s'était pris au sérieux, il y avait une prévisibilité dans cette idée. Il y a aussi des petits trucs, par exemple, de dire qu'il faut un certain nombre de bateaux pour la telle date, mais après on découvre qu'il y a de nouveaux modèles de bateaux qui coûtent beaucoup plus cher. Et bien, entre-temps, le Parlement, avec ce que Tirpitz appelait la lex imperfecta, le Parlement avait quand même dit oui, et donc Tirpitz savait très bien que ça allait aller comme ça, mais il avait donc la confiance du Parlement. Et avant les présentations au Parlement, il allait toujours voir tous les importants chefs de parti à la maison pour leur expliquer l'avers de son côté.
Est-ce qu'on peut dire de lui que c'est réellement le fondateur de la puissance de la marine allemande?
Oui, parce qu'il a eu une conception très particulière avec son plan Tirpitz qui a dominé en réalité la politique étrangère et évidemment la politique de défense allemande. Il suivait un certain Kurt Maltzahn, qui était un philosophe de la marine, qui avait proposé qu'un pays qui a une marine inférieure à un autre s'il ne pense qu'à se défendre, peut très bien avoir une marine qui est un tiers plus faible que celle de l'adversaire. C'est seulement s'il veut attaquer quelqu'un d'autre, il doit avoir une marine d'un tiers supérieure à l'adversaire. Et c'est sur cette base qu'il lui a opéré. On l'a beaucoup critiqué, notamment en Grande-Bretagne. Il a été considéré responsable en Grande-Bretagne, en fait co-responsable de la Première Guerre mondiale, ce qui est strictement faux. Parce que Tirpitz, en fait, ayant adopté cette thèse d'un tiers des moyens pour la marine, avait proposé un accord qui est le premier des accords de l'histoire de désarmement, ou un accord, disons, sur les armements, dans la marine à la Grande-Bretagne, dans laquelle il a dit « Vous pouvez construire ce que vous voulez, nous nous engageons à construire un tiers des moins que vous. Et donc, votre marine restera toujours la plus importante. » Mais Churchill, qui était First Sea Lord à l'époque, Churchill a refusé même de rencontrer Tirpitz. Donc il faut s'imaginer qu'il y a le grand chef de la marine qui est en fait pratiquement chef de la politique étrangère allemande, que Churchill refuse de rencontrer parce qu'il ne veut pas négocier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début de la guerre, la marine anglaise était le double de la marine allemande. Donc on ne peut pas dire que les Allemands ont été responsables de la guerre. Mais quelle est la raison de tout ça pour laquelle Tirpitz le faisait? Tirpitz est parti de l'idée que les Anglais allaient faire un embargo du commerce allemand. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problème. La marine anglaise transporte les biens de tout le monde à l'avantage de tout le monde. Mais au moment où il y a une guerre, on est soumis à un chantage. Et c'est exactement ce que les Anglais ont fait. Ils ont créé un embargo en 1914, qui d'ailleurs, à la fin, a causé 800 000 morts en Allemagne, morts de faim.
Le Kaiser semble quand même avoir une volonté de grande, très grande Allemagne.
Tout à fait. La question, c'est que tout le monde avait une volonté d'une grande Allemagne. Mais je dirais que le Kaiser était un homme qui s'est donné beaucoup d'air puisqu'il avait un complexe d'infériorité à cause d'un petit bras qu'il avait et donc avait besoin de se rendre important. Et donc il parlait de nous, etc., la guerre ici, à droite, et il apparaissait comme un homme qui voulait la guerre. En réalité, le seul chef d'État ou de gouvernement qui a fait un vrai effort d'éviter la Première Guerre mondiale a été lui. Et ça a été découvert justement dans les archives de Saint-Pétersbourg. C'est lui qui, ayant des cousins en Russie, les tsars, des cousins en Grande-Bretagne, etc.
Tous petits-fils de Victoria.
Oui, tous petits-fils de Victoria, a cherché de mettre en garde les autres, de ne pas mobiliser leurs armées. Ce serait peut-être trop long de voir pourquoi, finalement, les Russes et les Français ont mobilisé l'armée. Mais la cause de la Première Guerre mondiale n'a pas été l'Allemagne. Poincaré est le grand responsable dans cette affaire parce qu'il voulait se venger de la défaite de Sedan en 1870 où l'Allemagne, qui n'existait pas encore comme elle est, a abattu Napoléon III.
Et a proclamé dans la foulée l'Empire dans le Salon des Glaces de Versailles.
C'est ça. Donc, il voulait se venger. Mais la France n'avait pas la force de battre les Allemands. Donc, il a fait une alliance avec les Russes. Et cette alliance prévoyait que si l'Allemagne attaquait, Russie et France allaient s'unir contre elle. Poincaré a changé un tout petit point et dit « s'il y a un accident dans les Balkans, la France et la Russie attaquant l'Allemagne ». Donc il y a eu un accident dans les Balkans. Mais pourquoi il y a eu un accident dans les Balkans? Parce que les Russes l'ont voulu. Parce qu'en réalité, l'ultimatum autrichien qui avait été donné aux Serbes, qui était une erreur, je ne veux pas discuter ça, mais demander 5 conditions que les Serbes devaient respecter pour que les Autrichiens n'allaient pas les attaquer. Et la Serbie, grande amie de la Russie, toujours. Sazonov, le ministre des Affaires étrangères russe, a contacté les Serbes et a dit « refuser au moins une des 5 conditions ». Mais les Serbes avaient déjà préparé l'acceptation de toutes les 5, mais ils n'avaient pas encore envoyé. Donc, ils ont refusé une des conditions. L'Autriche voulait être présente au moment du procès contre les tueurs de François Ferdinand. Mmh. Oui. Et donc, à ce moment-là, il y avait ce déclenchement. Mais de toute façon, qui a mobilisé avant tout le monde? Les Russes. Et les Français aussi. Et ils ont aussi déclaré que les Allemands avaient traversé la frontière, avaient fait une petite course, ce qui n'était pas vrai. Donc, ils ont mobilisé ensemble. Le Kaiser, Guillaume II, a entendu de son consul à Saint-Pétersbourg qu'il y avait des militaires qui montaient sur les trains. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et les Russes répondent, rien. Et quand l'Allemagne se rend compte que la mobilisation russe a eu lieu, à ce moment-là, le Kaiser a cherché de contacter le 31 juillet son cousin ici, son cousin là, démobilise, etc. Et ce qu'on n'a jamais réalisé, c'est que les empereurs de l'époque n'avaient pas le pouvoir sur l'armée. Ni François-Joseph, parce que Konrad von Hetzendorf, son général, voulait la guerre. Tous les généraux voulaient la guerre. Et Moltke voulait aussi la guerre. Et les Russes, les généraux russes, voulaient aussi la guerre. Et le tsar est intervenu avec son chef de l'armée. Mais il a dit non, je ne démobilise pas. Et à un certain moment, le Kaiser a dit à Moltke, son général, je vous avais dit de ne pas entrer au Luxembourg, en tout cas, parce que autrement les Anglais risquent de se mobiliser. Mais maintenant, écoutez, moi j'ai fait ce que je pouvais faire, ça a raté, faites ce que vous voulez. Et Tirpitz, à ce moment-là, qui était en vacances au moment où le Kaiser a décidé d'entrer en guerre, est rentré à la maison et dit, mais écoutez, retirez votre déclaration, parce que ma marine est une marine de défense. Moi, je n'ai pas préparé une marine d'attaque. Donc, je n'ai pas la marine qu'il faut. Et le Kaiser a dit, écoutez, un Kaiser ne peut pas changer sa parole. C'est ça que ma grand-mère me racontait toujours. Les historiens, comment est-ce qu'ils interprètent la chose? Ils disent, les premiers à déclarer la guerre étaient l'Allemagne. Mais pourquoi? Parce que les autres mobilisés sont la déclarer. Et Tirpitz, à ce moment-là, a dit à Betam Holweg, son chancelier, ne déclarez pas la guerre. Si les autres ne la déclarent pas, nous non plus. Autrement, on apparaît comme ceux qui ont voulu la guerre. Et les Allemands sont très formels, n'est-ce pas? Donc, Betam Holweg a voulu faire sa belle déclaration de guerre. Et ça a rendu plus facile l'histoire au vainqueur, après de dire c'est l'Allemagne qui attaquait.
Ce qui veut dire qu'en fait, depuis un siècle, plus d'un siècle maintenant, on vit sur un mensonge historique.
Oui, et je dirais que c'était voulu. Parce que tous les problèmes suivants dans la Deuxième Guerre avec Hitler, etc., viennent des erreurs faites à Versailles. Et à Versailles, on ne raconte pas vraiment l'histoire. On dit, ah, les Allemands ont toujours dit qu'on leur a mis un couteau dans le dos. Oui, on leur a mis un couteau dans le dos. Pourquoi? Et c'est l'extrême droite qui disait ça en Allemagne. Mais quelle est la vérité? Wilson, président des États-Unis, avait proposé une paix sans changement de territoire et sans restitution, sans rien, pour arrêter la guerre. Les Allemands avaient encore un tiers des territoires au-delà de l'Allemagne de l'époque. Donc était, je ne vais pas dire gagnant parce qu'ils étaient en difficulté, mais ils avaient gagnant en termes d'espace. Donc l'armée a accepté d'arrêter de se battre et donc aussi de rester dans les territoires où elle s'est trouvée. Après, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a Clemenceau, Lloyd George et l'Italien, et Wilson attrape la fameuse grippe espagnole. Donc, il n'est pas en bonne forme, il rentre aux États-Unis, d'autant plus que là, il y a des élections et il veut y être. Donc, lui part, mais les 14 points de Wilson étaient parfaits.
Sauf qu'il n'était pas là pour les défendre.
Non, mais d'autant plus qu'à Versailles, il y avait une table d'accusés, s'appelait accusé, mais les Allemands n'étaient pas présents. Donc nous avions une négociation dans laquelle celui qui, soi-disant, a perdu, mais en réalité n'avait pas commencé la guerre, n'était pas présent. Et Clemenceau a dominé l'affaire, parce que Clemenceau parlait les langues. Alors qu'Orlando, l'Italien, ne parlait que l'Italien, Lloyd George, mais les Anglais, ne parlaient que l'anglais, etc. Et donc il a dominé la discussion et il a renversé complètement les 14 points de Wilson, et en détruisant l'Empire austro-hongrois et tout ça, qui a aussi eu des conséquences. Et donc, en réalité, a préproposé un accord absurde. Dans le sens, Keynes d'ailleurs, Maynard Keynes l'a dit et a démissionné. Il a dit, je ne reste pas avec un accord qui va créer une autre guerre. Et l'accord était complètement absurde, avec des restitutions tellement élevées. Pourquoi tellement élevées? Les Anglais devaient payer de l'argent pour les armes américaines. Les Français devaient payer de l'argent pour les armes américaines. Ils ont mis toutes les restitutions sous l'Allemagne. Donc c'était un montant incroyable qui allait au-delà des 250% du PNB allemand. Impossible à payer. Et on le savait. Et alors Foch a été chargé à un certain moment par Wilson, le général Foch, de garder l'accord, comment il fallait le faire. Et Foch a mis une clause dedans qui disait que si les Allemands ne payaient pas leur restitution, la France allait mettre son grappin sous la roue. Ce qui s'est passé, parce que dès que les Allemands n'ont pas pu payer à un certain moment, eh bien, les Français sont entrés, ce qui a provoqué Hitler tout de suite, n'est-ce pas? On pourra après voir pourquoi et comment on aurait pu éviter que Hitler intervienne, mais ça, c'est une autre histoire.
On pourrait encore se poser une question aujourd'hui à propos du grand amiral von Tirpitz. Comment vit-il cette après-guerre?
Sa vie après-guerre n'a été décrite par personne, sauf dans un livre. Même lui ne l'a pas tellement écrite. Lui a été pratiquement mis de côté en 1914. On ne l'a plus écouté. Et lui a démissionné et le Kaiser a refusé. En Allemagne, c'est la règle, on ne pouvait pas quitter si le Kaiser n'acceptait pas. Et après, il a fait une deuxième fois et finalement, il a pu sortir. Mais en réalité, à partir de août 14, il n'était pas en charge. Donc, le créateur de la marine ne pouvait pas s'occuper de sa marine. Il y a d'autres qui après ont dit, mais si lui avait été en charge, la Grande-Bretagne aurait perdu la guerre. Et qui le dit? C'est Churchill. Et Churchill a dit au fils de Tirpitz, Wolf von Tirpitz, qui était prisonnier en Angleterre et qui est coulé à pic pendant une des batailles et a pris, est devenu prisonnier des Anglais. Et Churchill a dit, je ne comprends pas une chose. Pourquoi votre père n'a pas bloqué l'entrée de la Tamise avec ses sous-marins? Parce que la question, c'est que les Allemands avaient très peu de sous-marins. Ça aussi est peu connu. Pourquoi? Parce que Tirpitz ne voulait pas gaspiller l'argent public. Donc, attendre jusqu'au moment où la technologie est suffisamment bonne pour construire des sous-marins qui restent longtemps sous l'eau. Et lorsque le gyroscope a été intervenu, et il est parti à toute vitesse, mais il en avait très meilleur que les autres, mais moins nombreux. Alors Tirpitz a dit au Kaiser, il faut bloquer l'entrée de la Tamise. Parce que si nous le faisons, nous avons plusieurs avantages. Un, tous les bateaux neutraux, des pays neutraux, peuvent passer. Donc ça, c'est important. Mais les Anglais ne peuvent pas aller aider les Français ou d'autres. Et ça, c'est ce que nous sommes capables actuellement de faire. Il ne faut pas chercher une autre stratégie. Et le Kaiser a dit non. D'ailleurs, il a dit non aussi à l'usage de la marine après. Donc, il a été mis de côté. Et après la guerre, il était farouchement contre l'application des traités de Versailles. Alors que Stresemann, le ministre des Affaires étrangères allemand, était très en faveur. Parce qu'il s'est dit, si on fait ça, on a une catastrophe ici. Et d'ailleurs, en 1929, il y a eu aussi la crise économique qui s'est ajoutée au problème des restitutions. Les Américains ont fait une gaffe énorme à un certain moment parce qu'avec les plans Jung, qui était le deuxième plan pour régler le problème des restitutions allemandes qui n'arrivaient pas à payer, Jung a introduit une clause qui est tout à fait absurde, qui a ruiné toute la situation en Allemagne, qui est de dire priorité au remboursement des dettes des États, des crédits des États, par rapport au crédit des banques. À ce moment-là, les banques ont fermé les robinets et il y a eu ce qu'il y a eu. Et disons, la situation locale est devenue très difficile, ce qui a affaibli la République de Weimar. Donc, on n'a plus cru à la démocratie de la République qui n'y arrivait pas. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a fait? À un certain moment, Tirpitz avait créé une partie qui s'appelait Vaterlandspartei en 17, de droite, avec mon grand-père. Et après, ce parti n'a pas bien marché. Il a créé le Deutsche Nationale Volkspartei, qui était un parti de droite, parce qu'entre-temps, lui, qui était plutôt prêt d'écouter le Parlement, disait, mais dans la situation ici, il n'ira pas. Le partitisme a pris le dessus, comme aujourd'hui d'ailleurs. Bon, le partitisme a pris le dessus dans la démocratie. Et donc, si on n'a pas un pouvoir fort, les partis font chacun leur intérêt. Donc, il était devenu plutôt pour une dictature, pour quelque temps, pour que puisse arriver à la démocratie, à la vraie démocratie plus tard. Et Weimar était un problème parce qu'elle a donné les pouvoirs à Hitler de façon tout à fait régulière. Donc alors, il a gagné les élections, Tirpitz, en 1924. Il a été le premier parti et donc on lui a offert d'être chancelier. Et lui, qui avait déjà refusé cette offre en 1911, parce qu'il considérait qu'il n'était pas assez bon pour le poste et qu'après a regretté parce qu'il a vu qu'est-ce que les différents chanceliers ont fait, a hésité mais a accepté. À ce moment-là, Stresemann est intervenu, qui était ministre des Affaires étrangères encore, et a dit non parce qu'il a consulté les autres pays tiers. Et Tirpitz, non, était considéré le type qui avait causé la guerre, etc. Et personne ne le voulait. Et en plus, Stresemann était pour les paiements, tandis que Tirpitz ne voulait pas qu'on paye les restitutions. Donc, à ce moment-là, il était quand même l'homme le plus important, l'éminence grise de l'Allemagne de l'après-guerre. Donc, il a dit, mais c'est moi qui dois choisir maintenant qui sera le prochain président. Et à ce moment-là, il est tombé sur Hindenburg. Chose qu'il a beaucoup regrettée après, parce qu'il appelait « mein Schmerzenskind », c'est-à-dire « mon enfant qui me fait pleurer ». Mais il a pensé à pourquoi. Parce que Hindenburg, qui avait le même âge que lui, lui s'est considéré trop vieux. Mais Hindenburg, qui avait le même âge que lui quand même, était un héros de guerre pour avoir battu les Russes à Tannenberg. Et encore que Ludendorff lui disait toujours « c'est moi qui ai gagné Tannenberg et pas toi ». Mais Hindenburg, à la fin, avec plusieurs rencontres avec Tirpitz, etc., il était très ami, a accepté. Mais quel était le plan de Tirpitz? Il savait que Hindenburg n'était pas un politicien. Il avait donc une personne avec une aura, etc., qui allait bien, pourvu qu'il ait un bon chef de cabinet. Et donc, Tirpitz avait pensé, je prends Hindenburg et je le convainc de prendre mon grand-père, donc le beau-fils de Tirpitz, Ulrich von Hassel, jeune diplomate à Rome à l'époque, dans sa première version. Je le prends et je dis à Hindenburg de le prendre comme chef de cabinet. Hassel était anti-nazi. Donc, toute l'histoire aurait pu être différente. Alors, cette histoire n'est pas connue. On l'a découvert plus tard, mais j'ai vu que quelqu'un connaissait l'histoire. Et c'est en Grande-Bretagne où le Punch, qui fait des cartoons comme ça, le Punch a à un certain moment eu une grande image, que j'ai mis dans les livres d'ailleurs, du cheval de Troie avec un visage de Hindenburg et une petite porte dans laquelle sort la double barbe de Tirpitz. Et en dessous, il y a écrit « Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans ». Donc, malheureusement, les premiers ministres à l'époque, Luther et Stresemann, amis des affaires étrangères, ont convaincu Hindenburg de garder le secrétaire d'État, chef de cabinet Messner, qui avait été avec le prédécesseur. Et Messner était prêt, disons, de soutenir n'importe qui. Et quand la question de Hitler s'est présentée avec von Papen, qui était prêt de faire le vice-chancelier avec Hitler, Messner tout de suite a soutenu l'idée et le vieux Hindenburg est mort peu après. Voilà.
Allez revisiter ce livre, ce premier tome d'une saga de quatre que vous consacrez, Corrado Persio Biroli, au grand amiral von Tirpitz, votre aïeul, sous-titré « Entre triomphe et désastre oui. ». Et vous le publiez chez Michel de Maulle. Merci d'être venu. On se retrouve demain pour une suite.